Bien. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc je vais essayer d'exprimer le point de vue de la conférence des directeurs, hein, donc qui est un point de vue national, mais en même temps avec, du fait de l'époque, une tonalité particulière, puisque, comme vous le savez, les UFM sont intégrés presque tous aujourd'hui aux universités. Enfin, j'y reviendrai. Quant à moi, mon UFM est intégré depuis maintenant 9 mois. Et c'est vrai que les UFM, c'est un peu le cas aussi de l'UFM de Lyon, hein, ou celui de Marseille, les UFM qui sont intégrés maintenant depuis un certain temps, à la différence de la plupart qui ont été intégrés au 1er janvier 2008, sont des UFM, et en particulier leur gouvernance, ont été amenés à prendre véritablement conscience, progressivement, de ce que signifiait l'intégration. Donc il y a bien un point de vue de la CDUFM, mais en même temps avec une tonalité liée au fait que celui qui vous l'expose, ce point de vue, est profondément imprégné du changement. En fait, mon propos pourrait se résumer à deux grandes idées, hein. Il faut, d'une part, lorsqu'on parle de formation de formateurs aujourd'hui dans le contexte qui nous rassemble, se situer sur deux registres, hein. Le premier, c'est celui de l'accompagnement des transformations récentes ou actuelles qui principalement se situent au niveau de la loi de 2005 qui a prévu l'intégration des UFM dans les universités en vertu d'un article qui lui-même était un article additif à la loi de 1984, hein, l'article 713.9. C'est aussi le cahier des charges de décembre 2006. Et voilà pour les transformations récentes ou actuelles. Mais il y a un deuxième registre qui doit nous interpeller sous peine de passer totalement à côté des enjeux de la période, hein. Ce deuxième registre, c'est celui des transformations qui sont en gestation aujourd'hui et qui sont à venir, et à venir dans un délai très vraisemblablement très proche. Il y a deux éléments à prendre en compte à ce niveau des transformations à venir. Il y a la conséquence ou les conséquences de la LRU de juillet 2007. Les UFM, et c'est un peu le paradoxe de ce processus d'intégration que nous vivons, les UFM n'ont pas été intégrés dans la bonne loi. Hein. Les UFM ont été intégrés dans une loi qui n'existe plus. Hein. Et bien évidemment, les conséquences de la LRU, la loi de responsabilité sur les universités, sont des conséquences qui sont véritablement, qui sont considérables. Et qui produisent progressivement, et encore, l'essentiel est à venir, qui produisent progressivement un effet de déflagration, hein, progressif sur tout le système universitaire. Puis enfin, un deuxième élément dans les transformations à venir, c'est le fait que, alors c'est vrai que c'était prévu dans la loi de 2005, dans la loi d'avril 2005, c'était prévu dans les discours qui avaient suivi, notamment de François Fillon, à l'époque où il était ministre de l'enseignement supérieur. Mais c'est la question de la mastérisation. Question de la mastérisation qui a été, de façon spectaculaire, actualisée par la lettre de mission du président de la République aux deux ministres concernés, Valérie Pécresse et Xavier Darcos, lettre de mission du 5 juillet 2007, qui bouleverse totalement le paysage à venir de la formation des enseignants et très très vraisemblablement, puisque c'est lié, de leur recrutement. Sans parler d'autres conséquences, mais qui ne sont plus du tout de mon registre. Alors, c'est dans ce paysage qui est devenu complexe, incertain, mais assurément changeant, hein, et bouleversé par rapport à notre tradition et nos réalités de référence qu'il faut se situer. Alors peut-être que si on se pose la question, donc du coup je reviens si vous voulez au thème proprement dit, mais contextualisé comme je viens de le faire, la formation de formateurs dans les UFM intégrés. Je voudrais commencer peut-être par dissiper quelques malentendus hein, qui sont très très présents dans les UFM et qu'il faut absolument régler, enfin dissiper, sous peine, là encore, de ne pas aborder la période dans de bonnes conditions. Il y a un premier malentendu qui est lié au fait que si la formation de formateurs dans les UFM constitue une tradition avec l'INRP, mais aussi dans d'autres cadres, dans le cadre des pôles par exemple, ou dans le cadre des instituts eux-mêmes, si cette formation des formateurs constitue une tradition solidement établie, qui se traduit bah, par exemple par des chargés de mission ou des directeurs adjoints en charge de ce dossier, par des lignes budgétaires dans nos budgets, il ne faudrait pas croire, contrairement à une idée répandue, que le concept même de formation de formateurs est totalement étranger à nos collègues de l'université, car je crois que c'est un malentendu. Hein. La question, beaucoup de formateurs, j'entends énormément de formateurs UFM, être sur dans cette logique, il n'y a pas de formation de formateurs à l'université. Qu'est-ce qu'on va devenir? Quel est l'avenir de cette problématique? Bon, en réalité, la question de la formation de formateurs est une question qui a toujours été présente, objectivement, dans les universités. Simplement, ils n'ont pas du tout la même réponse hein, que celle qui avait été apportée historiquement par les UFM, puisque, pour l'essentiel, la formation des formateurs, chez nos collègues universitaires, du moins ceux qui s'intéressent à minimum aux questions pédagogiques, hein, la formation de formateurs, elle est réglée par le statut même d'une grande partie des universitaires, puisque, étant enseignants-chercheurs, c'est par leur propre activité de recherche, qui constitue l'une de leurs obligations de service, qu'ils sont en charge de faire évoluer leur professionnalité, d'accompagner les innovations, etc. Alors que, donc, d'une certaine manière, la formation de formateurs à l'université est renvoyée à la responsabilité des individus, cette responsabilité étant étayée par un statut qui l'autorise. Alors que la formation de formateurs dans les UFM, quand on en fait le bilan après 18 ans d'existence, on se rend compte que, effectivement, elle procède très largement d'une volonté institutionnelle, hein, d'un certain volontarisme institutionnel qui se traduit par des dispositifs, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on voit bien que, quelque part, il y a un choc de culture. Mais il n'y a pas, c'est pas sur le fait faut-il ou pas, c'est de quelle nature doit être la formation de formateurs. Alors, il faut bien comprendre en même temps, et là je m'adresse à tous les collègues, notamment qui soient d'ailleurs dans les UFM ou pas, le processus d'intégration décidé par la loi de 2005, c'est l'intégration des UFM dans les universités et pas l'inverse. Donc s'il y aura sans doute un mouvement à faire des deux côtés hein, concernant nos pratiques, nos usages, nos cultures, il est clair que ce sont les UFM et leurs formateurs qui devront accomplir l'essentiel du chemin, hein, puisque le projet d'intégrer les UFM, c'est bien un projet qui consiste à confier aux universités la responsabilité de l'ensemble de ces processus. Il y a un deuxième malentendu, peut-être qu'il faudrait dissiper, c'est celui au niveau de la terminologie. Chacun sait que la notion même de formateur, hein, le mot même, le lexique hein, que nous utilisons est un lexique qui est souvent perçu, y compris dans les dialogues que nous avons avec nos collègues de l'université, comme un lexique local, en ce sens qu'on parle effectivement de formateur dans les UFM. C'est vraiment, je pense, le lexique qui est très très majoritairement utilisé hein, dans nos 31 instituts. On parle très rarement de formateur dans les facultés et dans les universités, puisque le vocable usuel, c'est on est enseignant. Alors, cette notion de cette question du lexique, elle peut s'expliquer, hein, je fais une hypothèse, c'est que, d'une certaine manière, les UFM, depuis leur création, hein, sont positionnés, certes, dans l'enseignement supérieur, mais avec une fonction qui est extrêmement claire, c'est une fonction de formation professionnelle, hein, des futurs fonctionnaires de l'État. Et cette idée, cette notion de formateur accolée à une logique de formation professionnelle peut contraster avec la notion d'un enseignement de l'université, qui lui n'a pas eu, pendant, du moins pendant très longtemps, comme perspective essentielle, hein, et encore moins évidemment unique, hein, de procéder à la formation au sens où nous l'entendons dans notre culture. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même bien comprendre que l'intégration des UFM se situe, du point de vue de cette question, dans un contexte de mutation pour l'université elle-même. La problématique de la professionnalisation des études amène en effet, au sein de l'université, au sein des composantes autres que l'UFM, hein, amène cette question de la formation professionnelle sur le devant de la scène et provoque toute une série de mouvements intéressants, et très intéressants pour les UFM, je dirais en faveur des problématiques qui sont associées naturellement aux UFM et à leur vocation de formation professionnelle. Pourquoi ? Parce que des tas de questions, par exemple la pédagogie, hein, la question pédagogique et la question d'une formation pédagogique, je suis frappé de voir que dans de nombreuses universités aujourd'hui, nos collègues viennent nous voir en nous disant « maintenant ça va devenir un élément essentiel de nos contrats quadriennaux, comment on prend en charge la formation pédagogique des enseignants du supérieur, au moins pour le premier cycle universitaire, pour le cycle licence, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main, hein ? La question de la formation, la question du C2I niveau 2 est ouvertement posée dans un certain nombre d'universités pour les universitaires. Hein. Il y a donc toute une série de mouvements émanant aujourd'hui des différentes facultés qui actualisent une formation de formateurs un peu dans le sens où nous l'entendons traditionnellement, même s'il y a bien sûr des différences, hein, par rapport à notre tradition. Et puis un troisième malentendu, peut-être, c'est au niveau de la question de la communauté que représentent les UFM. Depuis l'origine, depuis la création des UFM en 1990 et 1991, les UFM ont... c'est pas les seuls, hein, les UUT ont fait la même chose, les facultés le font de plus en plus, les facultés de sciences, etc. Bon, mais les UFM ont vraiment... était dès le début profondément attaché à l'idée d'une communauté des UFM, une communauté, c'est la raison d'être de la CDIUFM, de la conférence des directeurs d'UFM, c'est la raison d'être des moyens que le ministère nous donne pour souder cette communauté, pour la faire vivre, au-delà et par-delà la seule question de l'existence des instituts, qui sont la seule existence avant l'intégration. Il n'y avait que les UFM qui existaient juridiquement, la CDUFM n'existait pas. Et pourtant, il y a une très forte communauté, un sentiment communautaire affirmé dans les UFM de France. Hein. Il faut bien comprendre que ce sentiment de communauté aujourd'hui, cette idée d'une communauté des UFM est objectivement mis en péril par le fait que l'intégration dans des universités qui elles-mêmes, devenues beaucoup plus autonomes dans le cadre de la LRU, développent des identités autres, hein, dans un contexte, je vous le rappelle, où les universités, vous le savez, hein, l'une des motivations importantes de la LRU, c'est de favoriser la mise en concurrence, hein, des universités. La mise en concurrence des universités, ça ne favorise pas l'esprit communautaire. Hein. Bon. Il est donc clair que la problématique des formateurs d'UFM sera une problématique qui devra tenir compte d'un nouveau contexte dans lequel la divergence entre nos pratiques, nos modèles, nos références, nos usages, cette divergence sera un risque permanent lié à la nouvelle structuration du paysage universitaire. De ce fait, il est clair que tout ce qui peut permettre de rapprocher de faire se converger les formateurs, les instituts, est une bonne chose pour l'avenir. De ce point de vue-là, les partenariats, alors ce soit avec dans le cadre des pôles ou avec l'INRP, l'INRP peut jouer un rôle important de lieu fédératif, de lieu de rassemblement, de lieu où se mettent en cohérence des personnes et des pratiques que tout, par ailleurs, va amener à diverger. Alors, au niveau des orientations, peut-être pour terminer, je ne suis pas trop long, Michel. Bon, au niveau des orientations, ceci étant dit, je pense qu'il y a trois grands éléments sur lesquels nous sommes, l'ensemble des directeurs, extrêmement attentifs. Et je vous dirai les raisons, pour quelles raisons. Premier élément, au niveau d'une orientation de la formation des formateurs dans l'avenir, je crois qu'il faut reprendre la question de la demande de l'employeur. Le sentiment que de nombreux directeurs ont, c'est que nous n'avons sans doute pas suffisamment pris en compte, au niveau de la formation des formateurs, ou suffisamment pris au sérieux des éléments de transformation du système éducatif, tels que, par exemple, la question du socle de compétences qui, par bonheur, pourrait-on dire, se trouve, d'un point de vue paradigmatique, en cohérence avec la question des compétences telle qu'elle est posée en formation des enseignants, puisque je vous le rappelle, nous sommes passés dans une approche par compétences depuis le cahier des charges et l'instauration d'un référentiel de compétences professionnelles pour les enseignants. Il faut vraiment prendre au sérieux le fait que les formateurs UFM doivent former des enseignants, aussi bien en formation initiale que dans leur participation importante à la formation continue, ils doivent former des enseignants pour l'école d'aujourd'hui et de demain, telle qu'elle est cette école d'aujourd'hui et demain, déterminée, définie par la volonté nationale, qui ne s'exprime pas par nos désirs personnels, mais qui s'exprime par des décisions à caractère politique. Sur la question du socle, pourquoi je prends l'exemple du socle ? C'est parce que nous sommes un certain nombre d'IUFM à recevoir la visite de ce qu'on appelle le CNEFEM, le Comité National d'Évaluation de la Formation des Maîtres, et régulièrement, le CNEFEM nous pose la question en quoi, dans les formations initiales d'enseignants, la question du socle commun des connaissances et des compétences est véritablement traitée, articulé aux enjeux de contenu dans la formation. Alors, je prends l'exemple du SOC parce que c'est sans doute le plus spectaculaire. Mais il y en a d'autres, bien évidemment. Et de ce point de vue, je voudrais attirer l'attention sur tous les dispositifs de formation de formateurs, sur le fait qu'il y a un enjeu stratégique à une prise en compte raisonnée, mais réelle, de la demande de l'employeur. D'autant plus que nous sommes aujourd'hui dans un nouveau contexte concernant l'articulation formation des enseignants, recrutement des enseignants. Jusqu'à la loi de 2005, qui fait sentir ses effets en réalité pour la première fois cette année, au cours de l'année 2007-2008, mais jusqu'à maintenant, nous avions, du point de vue de l'articulation formation-recrutement, une forme de connivence entre l'État et l'établissement public qui avait en charge la formation des enseignants, une forme de connivence qui était d'ailleurs consolidée par des éléments institutionnels. Le recteur était président de notre conseil d'administration, avait un rôle important de validation, de légitimation de ce qui se faisait, et les liens très forts qui existent entre les UFM et les services académiques, aussi bien dans le premier que dans le second degré, faisait qu'il y avait une sorte de complicité sur le thème. En gros, les enseignants que vous formez, on sait ce que vous faites, en bien ou en mal, mais on sait bien ce que vous faites, et on peut réguler, si ça ne convient pas, en rétroagissant sur la formation. On est entré dans une période tout à fait différente hein, et tout à fait nouvelle, caractérisée par une dissociation beaucoup plus forte entre le dispositif de formation des enseignants et le dispositif de recrutement. Cette dissociation, elle est spectaculairement marquée, hein, mais c'est pas que ce niveau-là qui compte, hein, mais elle est spectaculairement marquée par la disparition de la visite de contrôle, comme on disait, qui fonctionnait un peu comme un moment de régulation, un moment de rattrapage. Dans tous les entretiens que nous avons, au niveau académique comme au niveau national, la semaine dernière, par exemple, nous avons reçu, nous avons discuté avec un groupe d'inspecteurs généraux qui sont tous sur le même registre et que le discours que nous entendons dans les académies. Il y a maintenant, de la part de l'État, un souci très fort de s'assurer au maximum de la qualité de la formation, sachant que au moment de la présentation du dossier de compétences, hein, dans les jurys, c'est, au moment de cette présentation, il n'y a plus, c'est une sorte de quitte ou double. On recrute ou on ne recrute pas. Et je suis frappé de voir presque une angoisse hein, de la part de nos partenaires, mais cette angoisse s'explique par le fait qu'effectivement, on est dans une sorte de logique du quitte ou double. Quand on songe que cette dissociation entre formation et recrutement risque d'être considérablement renforcée très prochainement avec la masterisation des formations et avec l'idée que les enseignants qui se présenteront au recrutement ne pourront se présenter qu'avec un diplôme universitaire qui sanctionnera cette formation, on imagine bien l'importance stratégique pour les formateurs de pouvoir anticiper sur la demande réelle de l'employeur sous peine de disqualifier notre travail. Une deuxième orientation forte, c'est tenir compte de dossiers qui sont des dossiers vifs dans la formation de formateurs. Je prends un exemple, le dossier de compétences qui va fonctionner pour la première fois cette année a fortement actualisé, j'ai évoqué tout à l'heure l'approche par compétences, on pourrait aussi citer la notion de portefeuille de compétences, on parle souvent de portfolio hein, dans les UFM. Il y a des questions vives aujourd'hui en matière de formation de formateurs du fait de l'actualité. Et ces questions vives, telles que le portfolio, sont des questions que l'on doit prendre en compte sous peine, là encore, de passer complètement à côté des besoins de l'institution. Et peut-être un dernier élément, c'est la question de l'universitarisation. Pendant très longtemps, et c'est un problème qui est, je le sais, hein, j'en suis conscient, difficile et délicat, mais ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, l'intégration des UFM dans le dispositif universitaire classique correspond à une volonté qui a été exprimée hein, au moment de la loi de 2005, une volonté de confier aux universités la responsabilité de la formation des enseignants. Dans cette nouvelle responsabilité liée à l'universitarisation, il y a la question de la recherche et du rapport à la recherche. Très clairement, quand les UFM sont intégrés, l'une des premières questions qui se pose, dans les contacts, dans les dialogues que nous avons, que ce soit avec les personnes ou que ce soit dans le cadre des instances de l'université, comme le CVU ou le conseil d'administration, mais qui êtes-vous, les UFM hein? Alors, qui êtes-vous derrière? Il y a plein de sous-questions, d'implicites, de sous-entendus. Hein? Et ces sous-entendus, nous devons malgré tout essayer de les entendre, même s'ils sont sous-entendus, hein? Car ils sont lourds de conséquences. La masterisation implique, notamment dans le cadre de la lettre de mission du président de la République, implique à court terme une masterisation de la totalité des formations UFM, et non pas du tout ce que l'on croyait encore il y a un an, une universitarisation partielle. Hein. Et dès lors que cette question est posée dans ces termes, alors c'est le problème de la crédibilité de la nature des formations UFM hein, pour asseoir la diplomation. De ce point de vue-là, une formation de formateurs hein, qui ne prendrait pas en compte toute la dimension recherche, et pas seulement le rapport à la recherche du point de vue que j'entendais tout à l'heure, c'est-à-dire, qui est effectivement important, ça, c'est très, je ne dis surtout pas qu'il faut abandonner ça, mais ce n'est pas seulement la question des apports de la recherche dans les contenus de formation et dans les pratiques de formation, c'est bien la question du rapport à la recherche de ceux qui mettent en œuvre les formations. Hein. Et donc, ça pose une question, vous le savez, ça pose une question identitaire, hein, puis ça pose des questions aussi statutaires hein, pour les formateurs UFM, puisque en France, aujourd'hui, on a à peu près, approximativement, 25% des formateurs UFM, du moins qui sont en service à temps plein, 25% qui sont des enseignants-chercheurs et 75% qui ne sont pas des enseignants-chercheurs. Bon. Et donc, ça pose la question du rapport à la recherche. Ce n'est pas une question, là encore, franchement, totalement nouvelle. Hein. La question s'est posée un peu dans ces termes-là pour les IUT dans les années 80. Et ils ont apporté des réponses qui, aujourd'hui, sont totalement acceptées. Et personne ne dit que les formations en IUT sont moins universitaires que d'autres. Hein. Mais la question, ils ont dû se la poser, quand même, et ils ont dû formaliser... en termes de formateurs, de nature des formateurs, ils ont dû formaliser leur offre, cette offre de formation. Il y a d'autres facultés, d'ailleurs, à l'université aujourd'hui, qui sont dans des situations proches de celles des UFM, ce qui n'empêche pas les universités d'attribuer des diplômes universitaires sans difficulté. Par exemple, les UFR STAPS, souvent, sont des UFR qui nous ressemblent hein, du point de vue de la caractérisation de leur personnel. Mais enfin, c'est une vraie question... Formation de formateurs dans des UFM intégrés, quel rapport profond à la recherche ? Et il est clair que pour les directeurs d'UFM, en particulier pour les jeunes formateurs, et pour ceux que l'on recrute, la question de la thèse va être un impératif absolu, sous peine effectivement de fermer les carrières de ses collègues, d'une part, et surtout... De discréditer l'avenir de nos instituts du point de vue de leur légitimité à dispenser des formations universitaires. Voilà, je n'ai pas été trop long, Michel, si.